Pour déclarer votre amour à une femme, c'est beaucoup.
Pas seulement pour le déclarer, pour l'établir, le construire, le détruire quand il faut, recommencer, étudier toutes les positions du problème, savoir comment on change de tactique, comment on adapte la stratégie à une tactique différente, etc., etc. C'est une guerre, oui.
Cette femme s'appelle Reine, elle est multiple. Vous en avez compté 4 enfants pour aller au-delà, je suppose. Mm-hmm. Les 4 reines, et c'est l'héroïne du Lys d'or, votre dernier roman publié chez Gallimard. Et vous venez de publier également dans la nouvelle collection Carnet chez Plon un petit ouvrage qui s'appelle Carnet de nuit, dans lequel j'extrais une petite citation. Comme écrivain, vous avez gagné, écrivez-vous, vous avez gagné si tout le monde considère que tout ce que vous avez écrit est vrai, donc que rien n'a été écrit. Pas de chance, j'ai considéré que tout ce que vous avez écrit dans Lys d'or était faux.
Peut-être que c'est le moment où vous vous trompez. En tout cas, il y a un avertissement, c'est-à-dire que c'est un ouvrage de fiction et que toute ressemblance avec des faits ou des personnages, passé, présent ou futur...
Oui, c'est ce qui est le plus intéressant.
C'est la première fois, je crois, qu'on introduit le futur dans un avertissement.
Merci, c'est-à-dire que des gens... Merci de le signaler, c'est bon, on aurait pu être inattentif.
C'est-à-dire que des gens pourraient être tentés de s'imaginer qu'ils pourraient vivre cette histoire. D'ailleurs, ça n'a pas raté, j'ai déjà 2 personnes qui me parlent du fait qu'elles sont en train de vivre quelque chose de similaire. Parce que nous sommes dans une époque de mimétisme, semblant où la moindre position un peu tenue implique immédiatement des doubles. Donc une œuvre de fiction peut devenir une fausse réalité pour ceux qui voudraient la réaliser. En tout cas, il y a de la réalité là-dessous, même si tout ce qui y est dit n'est pas forcément exactement correspondant à ce qui s'est passé. C'est ça les mystères du roman, de la fiction. Est-ce vrai? Est-ce que tout est vrai? J'ai fait cette remarque que vous avez signalée parce que à partir de femmes, de portraits du joueur, etc., l'inflation de l'effet de réalité de ce que, des romans que j'avais écrits était telle que j'ai voulu un peu calmer le jeu et montrer que quand même c'était des livres, que je ne passais pas mon temps à être exactement comme dans ces romans. Mmh. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est la façon dont la littérature influence la réalité. J'écris pour changer la vie.
Elle change ?
Elle change, au fur et à mesure, et selon les dispositifs qu'on met en ordre, c'est très mystérieux, vous savez. À peine on finit un livre, on attend et on rencontre les personnes, ou la personne qui demande à être introduite dans le prochain livre. À peine on vient d'écrire, on est en train d'écrire un livre, que se présente comme convoqué sur une scène aimantée et magnétique, les personnages qui veulent participer au récit.
Oui,
et les gens changent autour de vous.
Voilà, au fur et à mesure. Tout simplement, vous êtes prêt à les recevoir à ce moment-là. On peut toujours inverser le raisonnement.
C'est ça. Oui.
Cela dit, moi, je vous imagine assez bien, Philippe Sorelès, à 18 ans, montant à Montmartre, par exemple, et regardant Paris en lui disant « Je vous jure, je te jure de t'étonner toujours. » Parce que c'est ce qui est frappant.
À nous deux.
Oui, enfin là, je jure de t'étonner. Car ce qui m'a frappé dans Lys d'or par rapport à vos livres précédents, c'est que vous êtes toujours là tout en restant vous-même. C'est-à-dire, on sent toujours la musique, le personnage, les obsessions du personnage, on en parlera. Vous êtes toujours dans un lieu où on ne vous attend pas. Et soudain, vous voici donc avec une figure d'aristocrate, peut-être Frigide, peut-être Gouin, peut-être mille petites choses. Mm-hmm. Le Lys d'or, le titre lui-même est déjà intrigant. On vous attendait partout sauf là.
Oui, ce qui prouve que je suis mon propre parcours et que je ne me conforme pas à ce que les gens pensent ou attendent ou croient.
J'espère
que je suis.
J'espère que vous ne vous conformez pas à ce qu'ils n'attendent pas de vous.
Oui, oui, non plus.
Parce que là, ce serait aussi une dépendance.
Non plus. C'est-à-dire le parcours est purement intérieur et je me prête au spectacle, j'écoute, je reçois des coups, j'en donne éventuellement pour me dégager. Mais cela dit, bien vite, je ferme les fenêtres, les rideaux et je poursuis mon expérience en profondeur.
Donc on approche de l'essentiel, c'est la nécessité de l'apparition de ce personnage, de ce que vous avez appelé tout à l'heure cette guerre, cette lutte, ce duel, cette recherche entre le narrateur et cette femme.
Voilà.
Alors, quelle nécessité? Pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Qui est-elle? Que représente-t-elle?
D'abord, j'avais envie depuis longtemps de reprendre le chinois. Il se trouve que j'en ai fait pendant 2 ans J'ai su jusqu'à 1000 caractères, c'est pour lire pratiquement un journal. J'étais en Chine, vous le savez peut-être. Et la, la philosophie chinoise m'a toujours beaucoup intéressé, notamment le taoïsme. Et je m'étais déplacé dans les romans antérieurs à toute allure, dans des histoires un peu casanovistes, un peu italiennes. J'avais envie de revenir au chinois. C'était une envie profonde. Depuis longtemps, je rêvais, et je rêve toujours d'ailleurs, de faire une bonne traduction du Tao Te Ching de Lao Tzu, c'est-à-dire de voir exactement ce qu'il en est de ce dispositif chinois. Donc, comme j'avais envie de revenir au chinois, il a surgi comme fiction un personnage qui s'appelle Simon Rouvray, déjà non piégé, parce que c'est comme le duc de Saint-Simon qui s'appelait Rouvray. C'est déjà une petite indication. Mais enfin, ce personnage qui est tout simplement professeur de chinois et spécialiste du taoïsme dans un centre d'études religieuses. Voilà. Ce qui va me permettre d'introduire toutes ces cogitations, parfois très ironiques, à propos du lieu où il travaille. Il travaille sur l'histoire des religions, ce monsieur. Ah, l'histoire des religions dans un roman. Eh bien, voilà. Alors, lui, il est spécialiste du chinois. Et le chinois, le taoïsme notamment, fait un trou, si j'ose dire, dans l'histoire des religions. C'est quelque chose de tout à fait spécifique. En quelque sorte, si on étudie ça, le chinois, le taoïsme, Lao Tzu, Chuang Tzu, on s'aperçoit que ça dérègle tous les systèmes religieux, ce qui serait très intéressant à étudier aujourd'hui, où précisément un certain nombre de fanatismes attisés par leur propre incongruité stupide surgissent, notamment de Téhéran ces jours-ci, dans un monothéisme devenu fou. Donc là, nous sommes plutôt du côté du bouddhisme, ou de faire le vide et de voir un petit peu dans la nature comment le vide revient à lui-même. C'est mon personnage masculin. Ce personnage masculin, bon, il se promène dans Paris, comme tout le monde, et il a une vie privée, il est marié, il a un enfant, il a une maîtresse dont il nous parle, c'est très bien. Et puis il rentre un jour chez un antiquaire, il est attiré par un bouddha dans une vitrine. Il s'intéresse au bouddhisme, forcément. Puis à côté, il y a un lys d'or, qui est là en vente, un objet qui a dû appartenir à une annonciation sculptée. Vous savez, les anges tiennent des lys dans la main gauche. L'archange Gabriel, quand il va faire sa petite annonce à Marie, il tient un lys. Pourquoi ? Il faudrait maintenant que nous analysions tout ça. Enfin bref, cet objet est en vente chez un antiquaire, il entre, attiré par cet objet mystérieux, et puis là, il rencontre en effet cette reine de l'Aume qui achète cet objet. Alors il la suit, il commence à parler ensemble, et c'est, tout est lié, n'est-ce pas, la situation romanesque est entièrement nouée par cette rencontre de hasard. Bon, alors il va vouloir évidemment s'approcher physiquement d'elle, elle va refuser, mais en revanche, elle va lui proposer un contrat, et c'est le sujet du bouquin, n'est-ce pas, c'est-à-dire, bon, c'est très bien, je vais vous payer tous les mois, elle est très riche, je vais vous payer tous les mois, et vous allez me raconter l'histoire de votre vie, parce que votre vie m'intéresse. C'est curieux, ce philosophe taoïste, comme ça, à Paris. C'est étrange. Son savoir l'intrigue, cette femme qui se refuse, qui est peut-être, comme vous dites, on l'apprendra dans le roman, peut-être en effet frigide, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être attirée par les autres femmes, mais enfin, ne le sont-elles pas toutes, plus ou moins, etc., etc. Et elle va le payer, et il signe un contrat pour qu'il raconte l'histoire de sa vie et l'histoire de leur relation à tous les deux. Et voilà, c'est le sujet du roman.
Et naturellement, au fur et à mesure où il écrit le livre, la réalité est là pour modifier le livre.
Donc, et voilà, alors,
qui se fait dans le livre.
Le contrat porte sur le fait qu'il va raconter l'histoire de sa vie, comment il en est venu là, qu'est-ce qu'il pense. Et pour ça, il va prendre une année sabbatique, il va se retirer dans une île. Et, bon. Et en même temps, il va raconter l'histoire de leur relation. Mais bien entendu, c'est un rapport de force qui s'engage. C'est-à-dire que ce qu'il va lui écrire, qu'il va lui communiquer toutes les 20 ou 30 pages, hein, elle a le droit, d'après le contrat, non pas de censurer, mais de demander un supplément d'explication sur tel ou tel point. Alors, il se téléphone, par exemple, ou il se rencontre, elle lui demande des précisions. Hein, c'est un jeu assez pervers, c'est une liaison dangereuse, aurait-on dit, il y a deux siècles. Et lui, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire avec cet écrit ? Il va essayer quand même de la séduire, de poursuivre sa conquête par d'autres moyens. Va-t-il y arriver, petit à petit, par un certain nombre de techniques de séduction, tout en racontant
Hein, parce que le langage dans une histoire d'amour est prédominant. Vous savez que l'amour, ce n'est que du langage. Combien de personnes seraient amoureuses, dit La Rochefoucauld, si elles n'en avaient pas entendu parler. C'est-à-dire que dès qu'on... Je crois que tous les gens qui sont dans l'état amoureux sont très, de façon très touchante, pathétique, parfois comique, parfois bouffonne, en train d'essayer d'écrire le poème ou le roman de leur vie. Être amoureux, c'est ça. C'est essayer enfin d'entrer dans la littérature. Et ça va de la plus misérable, la collection Harlequin, ou les romans photos, à la plus sublime, si vous voulez, Proust ou la mienne.
Et là, c'est un moyen qu'il a, effectivement, de lui faire passer des messages sur son désir à lui.
Voilà.
Ce qu'il ne pourrait pas dire dans le langage normal, il le dit à travers ce qui pourrait apparaître comme une fiction, et c'est là où, effectivement, vous jouez toujours, comme toujours dans toutes vos œuvres, sur l'ambiguïté. Où est la vraie déclaration d'amour et où est l'acte de fiction de ce qu'elle lui a, commandé. Voilà. Et on n'en sait rien d'ailleurs, dans quelle mesure il est en train d'écrire le roman qui lui convient à elle ou le roman qui lui conviendrait à lui, c'est-à-dire le roman de sa séduction.
Il essaye absolument toutes les méthodes. C'est pour ça que c'est un livre à la fois très lyrique et en même temps très ironique. Si vous voulez, sur le plan de l'écriture, très construit. Sur le plan de l'écriture, ce qui m'intéressait, c'est parfois les parenthèses. Enfin, c'est un peu à la Nabokov. Ça. C'est-à-dire que brusquement, une proposition très lyrique, très passionnée, se voit interrompue par une parenthèse ironique. Comme si le destinataire devait être à la fois sous le coup du lyrisme, mais en même temps déstabilisé par l'ironie. C'est un art de la séduction. C'est un roman qui est un art de la séduction.
Pourquoi est-elle aristocrate ?
Parce qu'elle est comme ça dans le roman.
Mais encore,
pourquoi c'est une aristocrate bizarre, n'est-ce pas ? Parce qu'elle a les préjugés inverses de son milieu. C'est une aristocrate qui ne veut pas l'être. Ce qui donne au roman son piquant, je trouve, c'est que lui, qui s'en fiche éperdument de toutes ces histoires, puisque, encore une fois, il s'intéresse au taoïsme, à la Chine, au vide. Hein. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'il travaille. Et lui, au fond, trouve qu'elle ne s'intéresse pas assez à elle-même. Elle a rompu avec son milieu, elle est très progressiste, elle s'intéresse beaucoup au théâtre d'avant-garde, elle va en banlieue regarder des pièces d'Europe centrale.
Enfin, elle reste distante avec...
Elle aimerait aujourd'hui, je ne sais pas, elle aimerait à la folie Thomas Bernhard, par exemple. Enfin, vous voyez, c'est une aristocrate qui...
Qui reste distante, quand même.
Qui reste distante. C'est là, alors là, il y a une analyse du caractère aristocratique, mais du caractère aristocratique inversé. Ça n'est pas du tout comme Oriane de Guermantes dans Proust, qui représente aux yeux du narrateur tout ce qu'il peut y avoir de plus élevé dans l'échelle des valeurs mondaines. C'est le contraire. C'est quelqu'un qui s'est en quelque sorte déclassé tout en restant très riche. Je crois que c'est un personnage qu'on peut rencontrer aujourd'hui.
C'est un message que vous faites passer.
Oui, oui.
Vous jouez comme sur de velours avec les citations, dans la mesure où, dans cette affaire-là, contrairement peut-être à certains de vos livres précédents, la citation a un rôle profond dans le déroulement dramaturgique de leur liaison, puisque lui étudie le taoïsme et que, bien évidemment, il y a un contraste entre ce qu'il dit et ce qu'il cite et ce qu'il est en train d'essayer de vivre ou de faire vivre à l'intérieur de la réalité.
Oui.
Donc là, elle s'intègre très bien, vos citations. Mais c'est un de vos vieux trucs, de profiter d'un livre pour faire passer les citations que vous aimez.
Je crois que...
Vous n'aimez pas le mot truc.
Si, c'est, pourquoi pas. Je crois qu'on vit une telle déperdition de la littérature, de la culture en général, que un roman, c'est, moi je suis toujours saisi de cette angoisse, mais au fond j'aimais ça chez Montaigne quand j'avais 14 ou 15 heures à Bordeaux. C'est-à-dire, il y a des situations dans l'histoire où quelqu'un sent qu'il peut y avoir un tel abîme brusquement devant l'humanité, hein, qu'il faudrait absolument conserver le meilleur du passé, parce que tout va s'effondrer. Je crois que la situation où nous sommes est très sérieuse.
Ça veut donc dire qu'on va dire plus facilement Solaire que les taoïstes et que Solaire est obligé de garder les taoïstes.
J'ai envie de conserver, j'ai envie de transmettre l'essentiel de ce que j'ai pu lire ou pratiquer.
Ils existent, les taoïstes.
Absolument, mais qui les lit ou qui les pratique, n'est-ce pas ? Ils existent à partir du moment où vous décidez de les faire exister. Vous savez, quand j'avais 14-15 ans à Bordeaux, on allait à Montaigne avec le lycée, on voyait cette bibliothèque, les citations, vous savez, sur les poutres de la bibliothèque. Et Montaigne, quelqu'un qui m'a toujours beaucoup impressionné, parce qu'il a cru, visiblement, que tout allait périr et qu'il fallait absolument sauver tous les poètes latins, les poètes grecs, voilà, toute l'Antiquité qui allait être brûlée bientôt par, dit-il, les innovations calviniennes.
Cela dit, les grandes cultures traditionnelles sont des cultures de citations.
Mais bien sûr,
la Bible est une suite de citations, les Védas sont des citations, les Upanishads sont des citations, des Védas. Tout le monde se cite continuellement.
Bien sûr, les évangiles ne sont que des citations.
Que des citations, en grande partie, ou citations ou illustrations.
Mais je crois que la littérature est un tissu de citations.
Oui, mais vous ne le jouez pas en direct, en quelque sorte. Vous le jouez en tant que citation. Vous ne l'intégrez pas à l'intérieur d'un corps.
Si, ça dépend. Parfois c'est intégré, parfois ça ne l'est pas. C'est intégré dans les dialogues, souvent, par exemple, les poésies. Bon, je m'occupe à un moment donné, mon narrateur s'occupe beaucoup des fleurs. Il s'occupe des fleurs, des monnaies et des oiseaux. Il est très intéressé par ça. Il établit une mystérieuse équivalence entre les fleurs, les monnaies et les oiseaux. Le lys d'or, entre parenthèses, c'est une petite pièce d'or du siècle de Louis XIV qui a été émise pendant un an pour éviter les falsifications qui avaient lieu à propos du louis d'or. Bon, c'est une pièce très, très rare, très belle. Et ça m'a intéressé beaucoup d'ouvrir des catalogues des monnaies. Vous savez, quand on voit les monnaies, on voit tout. On pense aux gens qui ont eu ça dans leur poche. On voit se moduler les visages qui sont gravés là-dessus. Les monnaies qui passent comme ça. Et ça me fait beaucoup rêver. Les fleurs, alors il est question beaucoup de fleurs, puisque c'est un livre très floral. Donc il y a beaucoup de... Pourquoi est-ce que les fleurs ont obsédé les humains à ce point-là? Pas qu'on a besoin, dites-le avec des fleurs, on a besoin de fleurs pour tout, pour les baptêmes, pour les enterrements, pour les mariages. La fleur est un emblème sexuel très, 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 très particulier, et le lys parmi ces fleurs, et probablement avec l'orchidée dont parle Proust, tous les grands écrivains se sont beaucoup préoccupés de fleurs, hein, comme s'ils essayaient d'atteindre ce lieu...
L'iris n'est pas mal pour ce que vous imaginez en ce moment.
Quoi, hein,
l'iris n'est pas mal.
Un peu simple. Un peu simple. C'est comme l'arôme. La chose est trop déclarative. Si vous regardez, la répartition des étamines et du pistil dans un lys à 6 pétales, vous voyez que c'est extrêmement particulier, que ce n'est pas du tout par hasard si c'est la fleur que tous les peintres ont choisi, toute l'iconographie a choisi pour figurer l'annonciation. Parce que qu'est-ce qui se passe dans une annonciation? Il y a un ange avec des ailes qui tient un lys à la main. Bon, c'est de quoi? C'est le sexe de Dieu, comme ça, qui se pointe dans cette petite pièce où une vierge est en train de lire sur son pupitre.
Attention aux explications, docteur Freud, quand
mais,
même.
Non, mais c'est
vous n'en avez pas assez de la psychanalyse.
Mais c'est pas de la psychanalyse, ça se voit comme le nez au milieu de la figure.
d'une manière générale, là, vous tournez encore autour dans le lys d'or.
Oui.
Enfin, en tout cas, vous n'aimez pas la psychanalyse de Monoprix, je reprends dans Carnet.
Je vous signale que le personnage de Rennes est en psychanalyse,
oui,
justement.
Oui. Encore. Oui, oui. Il y en a beaucoup.
Elle a toutes les caractéristiques d'une femme un peu comme
d'aujourd'hui.
Ça. Un peu d'aujourd'hui. Elle est en psychanalyse et au fond, le livre entier fonctionne comme une psychanalyse à l'envers. C'est elle qui paye, c'est lui qui raconte. Imaginez ce que ce serait qu'une psychanalyse où le psychanalyste paye pour savoir ce que le patient a à lui raconter. Ça, c'est vraiment le renversement des choses. Donc, c'est l'envers. Mais peut-être qu'elle fait ce contrat bizarre, parce qu'elle a envie d'acheter le savoir de cet homme. Voilà. Il a un savoir, elle veut avoir du pouvoir sur lui. Le pouvoir achète le savoir.
Et l'homme avec?
Oui, bien
pas
sûr.
Pas sûr, enfin, on ne va pas raconter la fin.
Pas sûr,
on sait pas très bien.
Il s'en tire quand même.
Ça reste encore une fois ambigu, la fin. C'est pour ça qu'elle a du charme. Voilà. Cela dit, pour en rester avec la psychanalyse, effectivement, là, c'est peut-être de la psychanalyse très subtile, très solaire-sienne, mais celle qu'on vend...
C'est du roman.
Oui, celle qu'on vend dans les Monoprix, apparemment, n'est pas tout à fait de votre goût. Dans vos carnets de nuit, je lis ceci... La psychanalyse a tout faire. L'un vous expliquera que si un ouvrier revendique, c'est par crainte de la castration. Les aristocrates et leurs particules, idem. Un autre sera intarissable sur la situation au Proche-Orient ou le dernier film à la mode. La mère, le père, le manque, la pulsion, le symbolique, l'imaginaire, moins souvent le réel. Commentaire sportif d'aujourd'hui.
C'est ça.
Je lis Descente en flamme, là.
Oui, mais parce que vous avez ça, en effet. Vous ouvrez les journaux, vous avez ça dans Libération, vous avez ça dans le Nouvel Observateur, vous avez ça partout. C'est-à-dire, le psychanalyste de service, désormais, c'est un peu comme vous avez les horoscopes. Ou bien les évaluations de la bourse, etc. C'est pareil. Vous avez désormais des psychanalystes qui sont là, sérieux, des espèces de débris du lacanisme, si je peux dire, qui sont là pour vous expliquer que tous les phénomènes sont parfaitement explicables, que si un homme politique a eu un lapsus, on comprend très bien ce qu'il veut dire, ou encore sa façon de parler, etc. C'est, je crois, une sorte de panpsychisme comme ça généralisé. Ça ne va pas nous mener très... Vous verrez que demain ou après-demain, vous aurez dans les journaux une explication du comportement demande l'ayatollah Khomeini à propos de Rushdie. Mais ça va pas changer grand-chose à ce qui se passe, que nous ayons l'explication psychanalytique. Donc je crois que les passions sont toujours au-delà, ça va plus loin.
Mais c'est justement ce qui risque de vieillir le plus dans votre œuvre, Philippe Soler, c'est cet appel à la psychanalyse. Bon, entendu, ça n'est pas
un appel au renversement de la psychanalyse, à en sortir.
Pas seulement. On sent que les schémas de la psychanalyse sont quand même très présents. J'en ai très imprégné.
Mais je crois que tout le monde en est très imprégné aujourd'hui.
Parce que c'est dans l'air, mon pote.
Quand il y a une décomposition, vous savez, c'est un livre.
Vous jouez avec, en fin de compte.
C'est un roman sur les différentes. Sur les différents investissements religieux. Nous sommes en pleine décomposition des religions. Ça va produire un certain nombre d'effets, nous les voyons déjà, un peu partout. Les religions s'effondrent comme jamais, probablement, et en même temps, elles ressurgissent, elles essayent dans un dernier spasme d'occuper la situation. Ouais. Vous savez, ça peut nous amener très loin, c'est toutes ces histoires. Bon, eh bien, je crois qu'au forcément, une des façons de se comprendre pourquoi l'homme est atteint d'une névrose religieuse, c'est indubitablement la psychanalyse, c'est pas la seule explication. Mais cette explication même ne suffit plus, il faut aller au-delà et se demander pourquoi maintenant nous sommes à découvert sans rambarde, sans assurance, dans un monde qui ramène davantage le problème de la raison ironique que celui de la transcendance. Je vous choque, je sais, en disant
non,
cela.
Non, mais j'attends votre réponse.
En réalité,
j'écoute l'analyse et j'attends votre réponse. Parce que
ma réponse,
vous tournez autour, vous nous montrez effectivement le manque, vous nous montrez la nécessité de retrouver des parcelles de religieux. Bon, mais
les dissoudre, justement, d'aller loin dans cette dissolution. Je crois qu'on n'est pas allé encore assez loin dans cette dissolution. J'écris
les dissoudre pour quoi faire
dissoudre. Pour rien faire, pour rester dans la béatitude de l'être.
Oui, sans transcendance.
Oui, c'est pour ça que je m'appuie tellement sur les Chinois. Parce que bien un malin qui viendra nous expliquer si le taoïsme est une question d'immanence, de transcendance. Ce sont des concepts, vous savez, qui n'ont pas cours. Quand on lit les traductions qui ont été faites au cours du temps, vous savez, quand on voit que le mot, par exemple, l'idéogramme qui signifie sperme dans le Tao Te Ching, et c'est clair, c'est net, hein, c'est-à-dire, c'est composé de riz et de bleu, c'est très joli, le riz bleu, comme ça, c'est le sperme. Et ça a toujours été traduit par essence, figurez-vous. Ou alors du sperme à l'essence, si j'ose dire, sur l'autoroute, il y a quand même un saut considérable qui est que toute la métaphysique occidentale, monothéiste occidentale, n'a pas pu faire autrement que d'essentialiser des questions très pratiques. D'ailleurs, c'est un roman qui repose sur une certaine maîtrise physique, notamment sexuelle, dont je donne les exemples concrets. Concret.
Vous pensez à la fin ou à...
Non, je pense au milieu, quand le personnage veut démontrer dans une chambre d'hôtel, dans une suite d'hôtel à Paris, à Rennes, qu'il peut très bien baiser devant elle trois filles différentes, qu'il convoque indépendamment les unes des autres devant elle. Elle assiste à ça et lui montrer qu'il y attache aussi peu d'importance qu'elle. C'est une sorte de rapport de force qui s'exerce entre eux à ce moment-là. Et bien pour ça, il faut quand même une certaine maîtrise physique.
Oui, et puis on peut retrouver la vieille idée orientale du détachement.
Oui,
c'est-à-dire, on accomplit l'acte, mais on se détache du fruit de l'acte. On est ailleurs que
c'est
dans
ça,
celui qui est en train d'accomplir l'acte.
Par exemple. Mais ça nous met loin du pathos et du romantisme pathologique, je dirais, qui s'est quand même emparé de la civilisation occidentale à partir d'un certain moment. C'est proche du 18e, indubitablement. Hein, où ces choses-là étaient quand même prises très à la légère, il faudrait maintenant se demander pourquoi nous les avons fait consister dans une telle lourdeur. Et la plupart des romans, vous savez, tournent autour de la mort, de l'angoisse, de la culpabilité, et tout ça avec quand même une très grosse maladie de l'être et du sexe en réalité.
Je vois bien sur votre tombe, Philippe Soler, virgule, homme du 18e siècle.
Non, parce que ça me ferait revenir en arrière. C'est mettons tout simplement, le 18e l'a aidé.
c'est moins excitant que de vous renvoyer carrément deux siècles en arrière. La fonction du sexe, en dehors du plaisir, c'est pas seulement le plaisir.
Ah non, c'est la connaissance.
Sans amour. C'est ce qui m'a toujours préoccupé chez vous.
Oh, dites
mais donc. Je ne veux pas vous convertir du tout.
Mais là, je crois que l'amour, figurez-vous, n'a très peu de choses à voir avec le sexe. Oui, voilà. Ça touche, ça, c'est, si j'ose dire, la croix des religions, n'est-ce pas, de faire consister le sexe et l'amour. Et c'est pour ça qu'elles sont toutes, sans exception, de ce point de vue-là, d'une niaiserie accablante. Hein, c'est là-dessus que tous les systèmes religieux se plantent avec une régularité, sauf le taoïsme, qui est là-dessus d'une discrétion exemplaire, parce que pour lui, c'est, que ce soit le sexe, un arbre, des papillons, ou bien des nuages passant sur les montagnes, c'est rigoureusement pareil. C'est le seul système, d'ailleurs, lié à une certaine écriture, à une certaine vocalisation interne de cette écriture, bon, les merveilles chinoises, qui sont, hélas, qu'il faut essayer de récupérer comme on peut. À part ça, vous avez, non, c'est ça, regardez le christianisme, qui se plante là-dessus, joliment, tout le temps, scorchés et tout ça.
Je vous sors des textes du XIIe siècle qui sont magnifiques sur la nécessité de l'éros pour découvrir Dieu.
Oui, mais ça a toujours eu mauvaise presse. Il y a toujours eu des mystiques qui ont masqué leur débordement. N'allons pas demander à Sainte Thérèse d'Avila ce qu'elle éprouvait réellement. Et à Saint-Jean de la Croix aussi. Elle était quand même recouvert d'un voile très pudique.
Elle l'a bien dit. Et le 18e l'a très bien compris en faisant les statues que vous connaissez. Donc ça veut dire qu'on l'a compris. Et peut-être que les religions sont intéressantes dans les marges, justement.
Mais l'Italie, les églises d'Italie sont pleines d'obscénités merveilleuses.
Tous les anges.
Voilà.
Les anges de Venise, seulement que vous aimez tant.
Qui les voit, encore une fois, sauf un libertin confirmé comme moi, et en plus chinois.
Vous n'êtes pas forcément le seul.
Oui, mais enfin, tout de même, on n'en parle pas. Enfin, ces lieux ne sont pas consacrés à la compréhension de ce qui y est représenté. C'est ça qui m'a toujours frappé. Donc, le sexe et la connaissance, à partir d'un certain moment, ben, c'est pas intéressant, le sexe, c'est la connaissance qu'on en a. Vous savez que Spinoza disait que le concept de chien n'aboyait pas, le concept de sexe ne baisse pas.
Mais ce qui est assez extraordinaire de livre en livre, c'est de retrouver toujours cette même obsession, et toujours avec une sorte d'appétit, comme si c'était la première fois.
Oui. Mais je crois que c'est le domaine...
Toujours la première fois.
Je crois que là, nous sommes dans le domaine du désir, donc. Hein, et du désir qui, chez moi, est toujours positivé. Enfin, le désir est positif. Il ne se retourne pas contre lui-même, scorpionesquement, pour s'empoisonner de
chez
de,
moi,
de
on a quitté Simon, soudain.
Oui, oui.
Alors la fiction s'effondre.
Non, dans ce livre-là,
je vous ai un peu eu quand même, ça me fait plaisir.
Je peux le mettre en scène de façon différente, ce désir, dans des contextes différents. Et c'est ça qui est, c'est variable qui m'intéresse. Par exemple, dans ce livre est très différent des précédents, parce que qu'est-ce qui est traité, c'est justement la résistance d'une femme. Les précédents étaient beaucoup plus.
C'est vrai, c'est ce que t'as lu.
De façon assez cavalière à la Casanova. Ah. Là, au contraire, je traite la résistance, c'est-à-dire vraiment le refus, le non, niet. Hein, l'esprit qui toujours nie.
Et ensuite, la cérémonie, c'est elle qui.
La cérémonie. Voilà. et ensuite, le fait qu'on peut y arriver, mais d'une façon très, 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 très diagonale, très tangente. On peut y arriver quand même. Voilà.
La fin est ouverte.
C'est un livre qui reste suspendu. Vous savez, la plupart des romans s'achèvent. Qu'est-ce qu'ils font les écrivains? À la fin, ça meurt, ça procrée ou c'est puni. Là, personne ne meurt, personne ne procrée, personne n'est pur.
Voilà. Ouverture. Enfin, en tout cas, un très beau livre que je conseille vivement. Philippe Solers, Lys d'or, publié chez Gallimard et dans la collection Carnet chez Plon. Philippe Solers également, toujours le même, Carnet de nuit.